France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
L'avocat, c'est un fruit d'hiver et il ne se mange qu'en hiver. Ce qui tue tout, c'est l'excès. Et c'est pour ça qu'on arrive sur des surproductions, sur des cultures intensives.
Premier pays producteur, 30%, c'est le Mexique.
Une recette que j'affectionne particulièrement, on va le revisiter à ma manière, un avocado toast.
On déforeste énormément pour planter des champs d'avocats.
Aujourd'hui, en France, il se consomme environ 150 000 tonnes d'avocats. Et en Corse, l'année dernière, il s'est expédié 30 tonnes. Et cette année, peut-être qu'il s'en expédiera 80, 90 tonnes. Donc on a encore de la marge et du travail.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Et si l'avocat devenait un fruit bien que chez nous, alors qu'on le voit s'enraciner dans le sud de l'Europe, alors que les projets de vergers se multiplient sur la Côte d'Azur, dans le sud-ouest et en Corse, il est temps d'appeler cet avocat à la barre et de juger ses forces et ses faiblesses. On le dit nutritionnellement impeccable, mais écologiquement contestable. Alors, fruit du paradis ou avocat du diable, on lance le débat avec nos invités. Gilles Benahouf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur horticole et agricole spécialisé dans les cultures méditerranéennes. Vous êtes basé à Montpellier, mais vous voyagez partout tout autour, notamment pour conseiller des exploitations. Vous êtes conseiller indépendant en agriculture biologique et en biodynamie. Hein, c'est vos champs d'expertise.
Et j'ai habité pendant 17 ans la région Corse.
Et vous avez habité en Corse, que vous connaissez bien. Vous intervenez dans très nombreux domaines en Corse. Et dans le sud de la France, on va parler avocat avec vous, et notamment culture de l'avocat, pour savoir cette culture est cohérente, notamment dans le sud de notre pays. Jennifer Hart-Smith, bonjour.
Bonjour, François.
Alors vous êtes une habituée, Jennifer, de ce micro, pâtissière, naturopathe, créatrice culinaire, autrice de nombreux livres de recettes, dont le dernier, tiens, alors je ne l'ai pas. Il est resté au bureau, mais il est formidable. C'est le manuel gourmand de la ménopause chez Albin Michel, coécrit avec une certaine
Elvira Masson.
Ah, oui. Bonjour Elvira.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Ça va bien.
L'avocat, on va parler de ses bienfaits avec vous, Jennifer, évidemment. Vous nous avez préparé deux recettes, et même assez étonnant, une recette avec de l'avocat au registre sucré.
Tout à fait.
On n'en saura pas plus.
Exactement.
Et Elvira, vous allez nous raconter le passionnant destin d'une autrice culinaire.
Une grande autrice culinaire amoureuse du Mexique.
Eh bien,
et méconnue en France.
Il va peut-être être question de guacamole ou c'est le cliché?
C'est pas impossible.
Ah, avec nous également notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnès. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un vin blanc qui prend les atours d'un vin rouge.
Ah, intéressant, avec une robe bien particulière.
Exactement.
On va évoquer de la macération.
Et tout à fait, monsieur.
Parfait, on attend vos réactions sur l'avocat en direct sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou bien sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus, les infos pratiques de notre émission, franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster.
Complet.
Avec François-Régis Gaudry.
Nous avons une tradition dans cette émission, je disais gobelet, oui, car il y a un petit gobelet rempli sous vos micros. Alors évidemment, c'est une dégustation à l'aveugle. Est-ce que vous identifiez quelque chose? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez?
On a tous la même chose?
Alors, vous avez une famille de produits, ou en tout cas un produit décliné en plusieurs parfums, mais vous êtes bien curieuse, Elvira. Alors Elvira, vous avez la parole, vous la gardez?
Alors, c'est un mélange de graines et d'herbes pilées avec un peu d'épices.
Oui.
Je distingue du sésame blanc.
Bien joué.
J'ai trempé mon doigt dedans, c'est comme une poudre. Hein. Enfin, une poudre avec des gros morceaux. Il y a un petit côté poireau, mais je ne sais pas ce que c'est.
Oui.
C'est une acidité.
Vous nous en dites déjà pas mal, c'est chouette.
Il y a une acidité, il n'y a
pas de l'oignon.
C'est relevé.
De l'oignon séché ou grillé séché ou
Je regarde concernant. Non, pas d'oignon.
Avant, j'avais du piment, ça c'est évident.
Ouais, c'est très
Bravo.
Pimenté.
Alors,
très
vous,
doux.
Vous avez la version pimentée,
oui.
Cher Jérôme.
Jérôme et moi, on a la même chose.
Alors, vous avez une version relevée, c'est pas du piment, mais c'est du gingembre.
Ah oui.
Moi, j'ai ça, Gilles. On m'a mis des écorces d'agrumes. Humain.
Bravo! Bah, on l'a fait exprès,
oui.
Évidemment.
Même.
Et pas n'importe quel agrume, un agrume que vous aimez particulièrement, Gilles Benahouf, il s'agit du citron.
Ah, d'accord.
Vous aimez?
Ah oui.
Parfait. Je suis sûr que Jennifer Hart-Smith a décelé l'identité de ce produit.
Une sorte de gommasio, Non, de Gomasio, un Furikake.
Bravo, Furikake.
Parce que j'ai une même base de sésame que tout le monde, sauf que moi j'ai l'impression d'avoir plutôt une forme de graine de tomate ou quelque chose de un petit peu plus tomaté.
Bravo, tomate.
Voilà, mais j'ai pas le côté piment.
C'est parfait. Définition, chère Jennifer Hartsmith, du Furikake.
Le Furikake, alors ce serait une définition peut-être un peu personnelle, mais j'ai l'impression que c'est un condiment sec qu'on va rajouter, parsemer sur ses plats pour venir apporter vraiment un assaisonnement exhaustif. Enfin, une sorte d'exhausteur de goût aussi. Et moi, en tant que naturopathe, j'aime bien le côté complémentation aussi que ça peut apporter. Parce qu'on peut aussi y mettre des plantes, des choses qui peuvent être bénéfiques pour la digestion, par exemple.
On y rajoute des algues, on y rajoute du sésame aux nombreuses vertus nutritionnelles.
Calcium, et puis, tout à fait.
Calcium, absolument. Et puis, ça permet aussi de réduire sa consommation de sel. C'était d'ailleurs sa vocation première lorsqu'il a été mis au point au début du XXe siècle au Japon. Jetons ce livre, Épicerie naturelle maison, que moi j'adore et que j'ai dans ma bibliothèque. C'est un livre que vous avez signé, chère Jennifer, chez Marabout. Il y a à la page 62 une très belle recette de Furikake. Et c'est effectivement ce condiment japonais très populaire, essentiellement composé de graines de sésame et d'algues séchées, qu'on parsume, comme vous le dites, qu'on parsème, comme vous le dites, sur un riz blanc, sur des légumes, et qui a été mis au point par un pharmacien nippon pour pallier certaines carences alimentaires. Le problème aujourd'hui du Furikake au Japon, c'est qu'il a totalement abandonné sa vocation diététique, qu'il est le plus souvent, et c'est d'ailleurs un vrai problème de santé publique dans l'Empire du Soleil Levant, il est blindé d'additifs, de conservateurs, d'exhausteurs de goût. C'est devenu, vous savez, un peu cette espèce de potion magique et douteuse qui permet de relever n'importe quel plat avec du glutamate, etc. Eh bien, le Furikake que vous avez dans ces gobelets, c'est une alternative totalement naturelle et française, signée par un duo de femmes, la franco-japonaise Natsuko Peromat, accompagnée de Julie Renault, qui est pharmacienne experte en nutrition. Et elles ont développé ensemble ces recettes de Furikake avec plein de déclinaisons, avec le chef japonais Keizuke Matsushima, vous savez, le chef qui est installé à Nice depuis 25 ans. Et donc vous avez effectivement gingembre pour Elvira, tomate pour Jennifer, citron pour Gilles, piment pour Jérôme. Et c'est une belle...
belle découverte.
C'est très bon.
Une belle initiative gourmande.
Tel quel, c'est déjà très bon. Et on imagine effectivement sur des plats un peu neutres, c'est parfait.
Oui. Et pour le sourcing des matières premières, alors que du naturel, essentiellement du bio et du sauvage, avec les algues notamment, mais ils ont un problème avec le sésame. Le sésame bio, sur le marché mondial, est très compliqué à trouver. Et là, ils ont en ce moment Furi, parce que ça s'appelle Furi. Ils ont une piste très sérieuse avec un sésame bio de Sicile. C'est le sésame le plus proche qu'ils peuvent trouver du lieu de production de ces Furikake. Voilà, Furi est distribué à ce jour dans 150 épiceries fines et va rejoindre en mars 2024, les rayons de Monoprix, Furi. Derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Guillaume Roux, Fabrice Rivaud, on questionne, on cultive et on cuisine l'avocat. Juste après Séverin avec le titre « Où c'est la sortie ?» choisi par Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
Faut pas la rater. Mais tu dis qu'il n'y a pas de... déçus, qu'on sera pas déçus. En tout cas pas au début. Ouais, tu dis qu'il y a pas d'issue, qu'on sera pas déçus. Moi je t'écoute et je continue. Mais quand c'est qu'on a déconné. Mais tu dis qu'il y a pas d'issue, on sera fatigué c'est sûr. Qu'on sera pas déçus. Moi je te crois et je continue. Mais quand c'est qu'on sait qu'on a déconné.
On va déguster.
Bonjour, je suis Anthony de La Taste. Nous sommes dans notre domaine en plaine orientale, située exactement à Pjanić.
Vous êtes trois frères à la tête du domaine actuellement.
Tout à fait, oui. Nous avons décidé en 2019 de relancer la culture d'avocat. Alors pourquoi relancer ? Parce qu'il y a une trentaine d'années, notre grand-père avait fait le pari de planter des avocatiers à l'époque. Donc il en avait mis une dizaine d'hectares. Toutes les plantations ont fini par dépérir au bout de 5, 6, 7 ans par un champignon qui vient consommer les racines de l'arbre et qui tue l'arbre en quelque sorte. Donc on est allé en Espagne, dans plusieurs pays, pour rencontrer les producteurs, les pépiniéristes. Il s'avérait que des variétés ont été développées et pour le coup, sur notre domaine, on peut observer des arbres qui ont maintenant 4 ans et qui ont une taille d'environ 2,50 m, 3 m de haut sur 2 m de large peut-être.
La saison de l'avocat en Corse, ça va s'étaler jusqu'à quand ?
Alors, un avocat peut tenir dans un arbre jusqu'au mois de mai et atteint sa pleine maturité à partir de maintenant. Voilà.
Ils ont l'air de bien se porter, là, ces avocatiers. Vous me montrez un peu ?
Faisons le tour, oui, tout à fait, avec plaisir.
Vous avez deux variétés d'avocats ici. Hein.
On a le Hass et le Fuerte. Bah, alors, le Hass va avoir une peau plutôt grumeleuse et le Fuerte aura vraiment une peau lisse.
Ah, il est beau, celui-là. C'est un Hass, peau rugueuse.
Eh bien, on va le ramasser.
Ah là, vous avez mis un petit coup de pouce sur le pédoncule, c'est ça ?
C'est exactement ça, ouais. C'est une des difficultés, c'est comme vous voyez la fragilité de cette tige, comme elle se casse comme du verre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au vent, parce qu'un gros coup de vent peut raser un champ en une seule rafale. Bon, donc là, on va l'ouvrir.
Là, c'est encore assez dur.
En fait, un avocat n'attaque vraiment que son mûrissement une fois ramassé. Donc on fait des analyses de matière sèche pour déterminer quel est le bon moment pour déclencher la récolte. Par la suite, on le ramasse, on le conditionne et le temps de l'expédition, il arrivera chez vous et il suffira d'une petite semaine pour que l'avocat atteigne sa maturité parfaite et qu'il soit prêt à consommer.
Là, vous l'avez coupé en deux et il y a une belle répartition entre le noyau et la chair du fruit en fait. Hein.
Un fruit comme ça, c'est excellent. Donc là, il aurait fallu attendre une petite semaine entre la récolte et pour ouvrir le fruit. Mais si un jour vous goûtez l'avocat corse, donc pour le coup, il y a de fortes chances qu'il vienne de chez nous. Déjà, on est en bio, donc pas d'intrants chimiques. Ramasser un bon taux de maturité avec un transport, il y a juste la mer à traverser. Il y aura une réelle différence par rapport à un fruit qui est en général élevé, je dirais, dans des conditions pas très bonnes, avec des produits qui sont chez nous interdits. Donc forcément, derrière, ça se retrouve dans la qualité gustative.
Merci beaucoup.
Merci.
La saison de l'avocat corse est lancée au domaine de La Taste, où je promenais mon micro il y a quelques jours. Un domaine qui produit par ailleurs des agrumes bio et notamment des clémentines. Vous le connaissez bien ce domaine,
oui,
Gilles Benaouf.
Je connais surtout le papa, hein, Bertrand.
Alors soyez attentifs, hein. On trouve désormais de plus en plus d'avocats corses dans de nombreux commerces bio à Paris et en région, même si c'est un peu la chasse au trésor. Hein. C'est pas toujours facile d'en trouver parce qu'on est dans les prémices de cette nouvelle culture de l'avocatier sur l'île de Beauté. Gilles Benaouf, vous connaissez très bien cette île, vous êtes conseiller agricole dans de nombreux domaines. Comme l'explique le producteur Anthony de La Taste, la Corse est depuis quand même un certain temps une terre d'accueil, hein, pour l'avocatier.
Oui, tout à fait. L'histoire a commencé dans les années 50. Avec une station expérimentale et de recherche en agronomie à San Julián, avec un chercheur assez réputé, Robert Vogel, qui a essayé de développer de nouvelles cultures arboricoles fruitières pour la région Corse. Donc, ils ont installé une énorme collection dans les années 60, hein, qui aujourd'hui a disparu, pour tester le comportement de ces variétés, hein, parce qu'il existe à peu près 200 variétés quand même d'avocats. Donc, pour voir leur résistance au froid, au vent, justement, hein, qui a été évoqué. Et ensuite, Il y a eu des plantations qui ont été réalisées dans les années 70-80. Malheureusement, comme l'expliquait le producteur, une maladie a sévi, également le froid, la tempête, et ces vergers ont disparu. Mais il en existe encore des vieux sujets de ces années-là, dans la région d'Ajaccio ou sur la côte orientale.
C'est ça. Alors il y a tout de même la question de l'empreinte hydrique de l'avocatier, parce qu'il est vrai que les conditions climatiques aujourd'hui, en 2024, ne sont pas les mêmes que dans les années 60, lorsque l'avocatier s'est enraciné, s'est acclimaté à l'île, dans l'île de Beauté. L'avocatier, on le sait, est un arbre subtropical. Il est originaire d'ailleurs d'Amérique centrale.
D'Amérique centrale, tout à fait, oui.
Est-ce qu'on est autour du Mexique ou du...
Alors, il existe trois races d'avocatiers qui sont en fonction de leur origine géographique. Mm-hmm. La race mexicaine, la race antillaise, mm-hmm, et la race guatémaltèque.
Donc, on est véritablement en Amérique centrale. L'Amérique latine. Alors, cet arbre subtropical, évidemment, il est gourmand en eau. Dans de nombreux pays, on va peut-être évidemment évoquer cette question, on sait notamment au Mexique et au Pérou, et même dans le sud de l'Espagne, que les nappes phréatiques sont surexploitées, souvent au détriment d'ailleurs des populations locales. Est-ce que l'avocat, dans un contexte méditerranéen où l'eau est une ressource qui se raréfie, en gros, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que les conditions pédoclimatiques sont réunies?
Alors, moi, je vais vous raconter ce que j'ai pu voir en région Corse, sur ces vieux vergers des années 80-90. Donc, j'ai vu des vergers sur la région d'Ajaccio, donc la pluviométrie de l'ordre de 600 mm annuels. Mm-hmm. Et ce verger n'était irrigué qu'au mois de juillet. Donc, l'empreinte hydrique d'un verger corse sur cette région
était
vraiment minime. D'autres vergers sur la côte orientale, où se situent les vergers de la Taste, également, aucune irrigation, puisque là, sur la Costa Verde, donc la côte verte, il y a un régime hydrique encore plus élevé et suffisante pour le verger d'avocatier.
Parce que là, vous évoquez effectivement une région qui bénéficie d'un microclimat. Il s'agit de la plaine orientale de l'île de Beauté. On est donc à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bastia. Et là, il y a des conditions climatiques tout à fait particulières et notamment beaucoup d'eau, comment vous l'expliquez? C'est d'ailleurs pour cela que cette région, on la surnomme Costa Verde, la côte verte.
Alors, l'île de Beauté, c'est une montagne dans la mer, mm-hmm, avec des microclimats qui sont extrêmement variés. Donc là, ces vergers-là sont en piémont et bénéficient du régime hydrique, des pluviométries, des nuages qui s'accrochent à la montagne.
Est-ce qu'un avocatier est plus gourmand en eau qu'un arbre d'agrumes, un citronnier, un oranger, un clémentinier? Parce qu'on sait que les agrumes, là aussi, sont des cultures très importantes dans le paysage corse.
Alors, en tant que conseiller agricole, on parle toujours à l'hectare. Donc, pour un hectare d'avocatier, mm-hmm, on estime les besoins annuels de l'ordre de 6 000 à 8 000 m3 d'eau, alors que pour un verger d'agrumes, il en faudrait de l'ordre de 3 000 à 5 000.
Et quand on évoque effectivement ces quantités d'eau, c'est aussi d'abord l'irrigation naturelle, les pluies,
c'est pas l'eau que l'on met au pied de l'arbre. Bien sûr.
Il y a beaucoup de projets de vergers, d'avocatiers en France. L'avocat commence à pousser également sur les Pyrénées orientales. Le quotidien Libération, d'ailleurs, consacré le 16 décembre dernier un article à cette nouvelle culture, indiquant notamment que la Chambre d'agriculture du Var organisera en février sa première formation pour mettre en place un verger d'avocatier. Ça y est, ça veut dire que la France est en train de se lancer dans l'aventure de l'avocat, made in France.
Oui, c'est un sacré pari.
Ah, pourquoi?
Parce que, au-delà du réchauffement climatique, ce qui est à craindre également, c'est les accidents climatiques. Donc, évoqué en région Corse, c'est les nombreuses tempêtes ou également des situations de gel. À savoir que l'avocat en Corse fleurit entre le mois d'avril et le mois de mai. Et on a encore des possibilités de petites gelées sur ces floraisons
qui
pourraient perturber. Oui.
Donc, il y a les aléas climatiques. Il y a par ailleurs le vent que déteste l'avocat parce que ses branches sont fragiles.
Extrêmement cassantes. Les fruits peuvent tomber au sol. On peut perdre la fleur également.
L'avocatier n'aime pas non plus les sols calcaires, je crois.
Alors, les sols calcaires, mais ce qu'il déteste également, c'est les problèmes de salinité qu'on retrouve au Maghreb, au Maroc ou en Espagne.
Gilles Benaouf, l'eau peut même être l'ennemi de l'avocatier.
Ah oui, les excès d'eau ou les sols trop lourds, trop argileux, vont faire dépérir le système racinaire et en l'espace de 2-3 ans, voire plus, faire dépérir l'ensemble de la surface.
Jennifer Hartsmith, l'avocat est un vrai phénomène alimentaire de ces dernières années, ça ne vous a pas échappé. C'est l'un des fruits les plus mondialisés, avec plus de 8 millions de tonnes produites dans le monde en 2022 et un taux de croissance annuel d'environ 10% depuis 10 ans. C'est l'un des fruits préférés des Français qui sont d'ailleurs les champions d'Europe de sa consommation avec, écoutez bien, 2,8 kilos d'avocats consommés par an et par personne. C'est aussi accessoirement l'avocat, un emoji à succès sur Instagram. Comment, Jennifer, on est passé d'un fruit qui cochait toutes les cases nutritionnelles dans les années, on va dire, jusque dans les années 2010, et qui est, 15 ans plus tard, devenu ce que l'on pourrait appeler l'avocat du diable.
En fait, c'est vrai que on va dire tout le secteur du bien-être a contribué à démocratiser l'avocat, ce qui était plutôt une très bonne chose. Et c'est vrai qu'il coche toutes les cases dans la mesure où il est riche en acides gras monoinsaturés, ce qui est l'inverse des graisses saturées qui qui vont être difficiles sur tout ce qui est le cardiovasculaire. Donc il est effectivement riche en lipides.
C'est un bon beurre végétal.
Il apporte le bon gras. Et il est aussi riche en acide oléique, ce qui est l'acide de l'huile d'olive. Donc c'est vrai qu'on a contribué à en parler, à essayer de faire en sorte de remplacer un petit peu le beurre par l'avocat. Ça a été le conseil notamment de chez les nutritionnistes, chez les naturopathes comme moi. Et même aujourd'hui, les médecins, je sais, parlent de plus en plus de l'avocat. Mais c'est toujours, d'une certaine façon, décorrélé des réalités environnementales et des réalités de l'agriculture qu'on connaît mal. Et donc, parfois, ça crée des désastres environnementaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a reculé. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, on a pris conscience qu'il y avait une vraie responsabilité dans le fait de le démocratiser à outrance. Il a une saisonnalité comme tous les fruits et légumes. Et le fait de dire manger de l'avocat, il a tout bon, on l'a mis tout au long de l'année et beaucoup l'été, alors qu'il n'a pas forcément sa place l'été, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc, ça, aujourd'hui, on y va avec un peu plus de réticence, ce qui a été mon cas aussi. J'ai même décidé de le bouder, vraiment, et jusqu'à ce qu'effectivement, on se rende compte qu'il commence à arriver un écosystème d'avocats qui est un petit peu plus qui vient d'un peu moins loin et avec peut-être une conscience aussi dans la façon de le faire pousser.
Avec de l'agriculture biologique, avec aussi peut-être Gilles Benaouf, des systèmes d'irrigation plus performants qui permettent de ne pas gaspiller l'eau.
Alors oui, là c'est des systèmes goutte à goutte. Donc le système goutte à goutte est un système d'économie par rapport à la ressource en eau. Et également, ces dix dernières années, de nouveaux systèmes d'aide à la décision, notamment des sondes, permettent de piloter au mieux la quantité d'eau pour les arbres.
Jennifer Hartsmith, il paraît qu'il y a eu le syndrome de ce que l'on a appelé l'avocado toast. C'était vraiment un totem alimentaire de cette cuisine que l'on a nommée Healthy, notamment très présente sur la côte ouest des États-Unis, à New York. Gwyneth Paltrow, la fameuse actrice américaine, en a fait la promotion dans un livre à succès qui est devenu un véritable best-seller international. Cet avocado toast, selon certains observateurs, aurait été à l'origine finalement de la surproduction d'avocats, de la plantation de vergers en quantité au Mexique, au Pérou, où c'est devenu un véritable problème pour les populations locales et notamment pour les nappes phréatiques.
Tout à fait. Et en plus, il a effectivement donc un besoin d'eau assez important. Mais c'est vrai que le fait de l'avoir démocratisé et d'en avoir cette espèce d'avocado toast qu'on a fini par mettre le matin, le midi, et moi j'aime bien l'utiliser plus comme un produit assez exceptionnel. Mais là, d'un coup, il a commencé à prendre place un peu partout. Et effectivement, c'est pas forcément
à
l'idée.
À la carte de tous les coffee shops. Tout à fait. New York à Melbourne en passant par Stockholm, tous les jours de l'année, c'était vraiment très
bien. Nous étions ensemble, on travaillait au magazine L'Express, Elvira, et dans les années 2010, on découvrait l'avocado toast, on commençait à le déguster dans des coffee shops parisiens, et c'est vrai qu'on trouvait ça délicieux, cette espèce de pain toasté avec
avocado toast, matcha latte, c'était le doublé gagnant puis perdant de.
On a eu du mal à proposer des plats végétariens aussi dans la cuisine française à une certaine époque. Aujourd'hui, on sait que ça a beaucoup avancé.
Et oui, grâce
mais
à
donc,
vous notamment.
L'avocado toast est devenu un petit peu l'option végétarienne qu'on a trouvée partout. Et donc, effectivement, ça a contribué à faire connaître l'avocat, à le démocratiser. Mais du coup, maintenant, c'est devenu trop. Donc, peut-être, en sortir, c'est pas plus mal.
On s'est baladé à plusieurs dans des commerces de bouche parisiens pour voir si on trouvait, en cette saison qui commence, de l'avocat français ou de l'avocat européen. Et on va dire que la chasse au trésor a été plutôt bonne. Avec un avocat que vous nous avez trouvé dans une épicerie, je le brandis, il est à la police. Vous reconnaissez la variété ou pas? Gilles Benaouf?
Non.
Bacon. Ça, c'est le bacon. Et celui-ci?
Le Haas.
Donc en fait, on peut parler des avocats qui ont la peau rugueuse, comme
et
le Haas.
Et la police.
Et la police, c'est ça?
Oui.
Sans jeu de
tout
mots.
Tout à fait, oui. Tout à fait.
Jennifer Smith, celui-ci, il est corse et vous l'avez
alors,
trouvé?
Alors celui-ci, il vient de chez Trouvaille et Terroir. C'est donc une petite épicerie, effectivement, qui l'a sourcé. C'est un avocat qui est extrêmement... Là, pour le coup, je trouve que c'est celui qui a le plus la texture proche du beurre, vraiment ce côté ultra crémeux. Mm-hmm. On a la chance de l'avoir à maturité aujourd'hui. Il est bio aussi, donc c'est plutôt intéressant. Et il est génial dans tout ce qui va être utilisation, notamment des desserts, parce qu'il a ce côté ultra soyeux et vraiment... Vraiment, il a été très facile à utiliser. Enfin, ça a été un vrai bonheur pour le coup.
Et bien justement, alors transition toute faite vers la recette, la première recette que vous nous avez préparée. On pourrait presque parler d'un avocat d'autoast. Mais encore une fois, un avocat vertueux. Faites attention quand vous achetez vos avocats. Essayez de vous tourner, surtout que la différence de prix n'est pas énorme du tout. Essayez de vous tourner de préférence vers des avocats locaux, biologiques. Et là, vous nous avez fait une tartine.
Alors là, je l'ai proposé en version salée et sucrée. Aujourd'hui, je vous ai fait une tartine qu'on a mise effectivement dans le livre, le manuel gourmand de la ménopause avec Elvira.
Absolument. Donc et pour une raison très précise.
Pour une raison extrêmement précise, c'est que en fait, l'avocat est donc une matière grasse qui va être très riche en vitamines du groupe dit lipidique, c'est-à-dire les ADEC, la vitamine A, D, E, K. Dans l'avocat, on trouve la vitamine A. K, mais on ne trouve pas la vitamine D. Donc, pour le coup, la vitamine D, on en a énormément besoin pour notamment tout ce qui va être l'ostéo-articulaire, pour l'immunité. C'est une vitamine qui est essentielle quand on régule notamment le taux de vitamine D. On règle beaucoup de problèmes. C'est ce qu'on dit en naturopathie, et c'est vrai. Donc là, on a entrecoupé des petites lamelles d'avocat avec des petites lamelles de foie de morue fumée. C'est pas forcément l'ingrédient que tout le monde aime. On se rend compte qu'il y a quand même une génération qui est un peu traumatisée du foie de morue. Mais de fait, c'est quand même un ingrédient qui est extrêmement riche en vitamine D de qualité. Donc là, on a été un peu sur une orientation gras sur gras, mais on se rend compte que c'est un peu la tendance quand on consomme l'avocat d'amener un petit fil d'huile d'olive, une petite huile un petit peu justement riche en oméga 3 ou autre. Donc
c'est
là,
délicieux.
Il a ce côté gustatif intéressant et en même temps, on se fait du bien, un peu comme le four au caquette de tout à l'heure.
Et c'est drôle parce qu'en texture, on a un peu affaire à deux ingrédients gras et en même temps, on se rend compte que l'avocat avec sa suavité tempère le côté un peu hard.
Écœurant, on peut le dire, du foie de morue, ça peut l'être.
Moi, j'ai toujours été un grand amateur de foie de morue. J'ai toujours adoré ça. Je me fais des tartines de
foie
de morue.
L'avocat apporte bizarrement une fraîcheur au foie qui peut être un peu écœurant.
Exactement.
Ouais. Et on peut mettre une petite pincée de fourri-fourri.
Et ben voilà.
On a goûté en début d'émission.
Alors, c'est fourri-fourri. J'employais un peu pour faire mon malin l'accent japonais. Fourri-fourri, parce qu'effectivement, le R se prononce un peu.
Une auditrice nous a écrit pour nous demander l'orthographe exacte de fouli-fouli, F-O-U-L-I.
Furi-furi.
Furi.
F-U-R-I. Vous aimez ou pas, Gilles Bédard, cette tartine?
Le mariage, moi aussi, j'aime beaucoup le foie de morue. Le mariage est parfait.
Et franchement, elle a du bon, cette variété d'avocats bacon.
Parce qu'on a tendance à toujours un peu valoriser le côté texture de l'avocat, mais l'avocat a un goût. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours... Enfin, le goût est parfois plus ou moins fin, il est plus ou moins présent. Et c'est pas parce que, notamment, les avocats vont être plus gros qu'ils vont être meilleurs. Parfois, les avocats qui vont être plus petits, je ne sais pas, peut-être vous me direz si c'est le cas, mais n'ont pas forcément eu la même irrigation, ont eu le même besoin en eau, mais ça ne veut pas dire que la concentration de goût est moindre.
Oui.
Donc, le goût, il est aussi recherché.
Gilles Benauf.
Oui, la qualité aussi se fait au taux de matière sèche, hein, comme l'évoquait tout à l'heure le producteur. Et sur les petits avocats, on va avoir des taux de matière sèche plus importants, mais l'une des meilleures variétés reste le fouerté.
Ah! Le fouerté.
Le fouerté. Hein.
Police.
Voilà, qui a police. Mais
il est plutôt oblong et
oblong,
allongé.
Oui, tout à fait. Bon, par contre, il a un problème, c'est une variété qui alterne. Donc une année, il va produire, et l'année suivante, il va se mettre au repos. Et donc de nouvelles variétés dérivées de ce fouerté ont été créées, notamment la variété Étinger, qui n'a pas ce problème d'alternance.
Voyons si on peut trouver un accord dans le verre avec votre tartine foie de morue avocat.
On va déguster sur France Inter.
Jérôme Gagnès passe à l'orange et je ne parle pas du fruit. Hein.
Non, bravo. On passe à l'orange. On passe en tout cas à la macération.
Oui.
Je vous parle de vins qui sont devenus un peu à la mode. Plutôt récemment en France, ça fait une quinzaine d'années, on va dire. C'est une façon de faire le vin qui est extrêmement ancienne, puisqu'elle date des origines du vin, notamment en Géorgie. On faisait les vins autrefois de cette façon-là. C'est-à-dire que Pour faire du blanc, vous savez qu'on presse des raisins blancs, on obtient un jus qu'on vinifie, qu'on fait les sucres sont transformés en alcool, et ça fait du vin blanc. Pour faire du vin rouge, on prend les raisins, on les met dans une cuve, on les écrase un peu, ça s'appelle fouler, et puis il va se passer une macération entre des peaux dans le jus, et c'est les peaux qui vont colorer le jus, et le vin devient rouge. Et il y a aussi une façon de faire le blanc, qui est donc une macération, c'est-à-dire qu'on va procéder de la même façon pour les rouges, mais avec des raisins blancs. Alors c'est une encore une fois quelque chose qui a été beaucoup fait il y a très 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 longtemps en Géorgie, qui est fait depuis assez longtemps en Italie avec pas mal de bonheur parce que c'est un pays qui maîtrise assez bien ce type de vinification. Et puis en France les essais étaient plus ou moins réussis. Et donc j'en goûte souvent parce que c'est un style de vin que j'aime beaucoup. C'est un style de vin qui est très gastronomique, c'est un style de vin qui est très intéressant. Et là nous dégustons un vin du Masfoulaquier, c'est Blandine Chaucha. Qui fait ce vin. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce vin. Blandine Chaucha et Pierre Jéquier, il faut citer tout le monde. Le Masfoulaquier, c'est un très beau domaine qui est situé dans le Pic Saint-Loup. Le Pic Saint-Loup, pour situer, c'est à une petite trentaine de kilomètres au nord de Montpellier. Le Pic Saint-Loup, c'est cette montagne, et puis il y a un vignoble tout autour. C'est une des plus belles appellations du Languedoc, avec Terrasse du Larzac, aujourd'hui deux appellations dont le niveau général de vin est quand même assez élevé. Alors revenons donc à cette cuvée qui s'appelle Orangey. Il y a une belle étiquette, un peu japonisante, c'est une artiste qui a dessiné cette étiquette. Orangey, c'est le terme japonais pour orange, et c'est le résultat, ce vin, d'une macération de muscat à petits grains pour 80%, de 20% de muscat d'Alexandrie. Ces deux muscats viennent du Roussillon. Blandine va les chercher dans le Roussillon. Elle les rapporte chez elle et ensuite elle les fait macérer pendant 3 mois. Mmh. Et c'est un vin qui a donc, qui a à la fois, qui relève du vin blanc dans sa couleur d'une certaine façon, dans ses acidités, mais qui relève aussi un petit peu du vin rouge dans sa texture. Et puis, alors, il y a l'aromatique, et l'aromatique, elle est très singulière, elle ne relève pas du blanc, elle ne relève pas du rouge. Il y a une dimension végétale dans le vin orange que j'aime énormément.
Avec un côté peau d'agrumes, quand même.
Énorme, ici. Alors, on met le nez dans le verre et on navigue entre l'orange amer, la bigarade confite, la peau d'agrumes, des amers végétaux que j'aime beaucoup. Ça évoque un peu la gentiane, la racine, le quinquina. Ça évoque l'infusion, le thé, ça évoque le poivre blanc, c'est d'une complexité absolument folle. Et donc ce nez est un ravissement. Et en bouche, eh bien, il y a justement cette dimension. Parce que les peaux apportent évidemment un petit peu de tanin, même s'il y a très peu de tanin sur les peaux.
Il y a une légère astringence, mais qui est très agréable.
Très légère. Et c'est en fait, elle relève, elle dynamise le vin, elle lui apporte du relief. Il y a une jolie acidité, il y a beaucoup d'allonge. C'est un vin qui est très droit, il n'y a pas d'oxydation. Combien de fois on me fait goûter des vins oranges qui sont oxydés, qui
lèvent les yeux au ciel, le gagnant,
qui sont sur le toit, qui sont totalement barrés de traviole, parce que on a décidé un jour que le vin orange était funky. Non, le vin orange c'est comme du vin, il faut que ce soit droit, il faut qu'il n'y ait pas de défaut. Et en l'occurrence, ce vin il est net, il y a pas un pet de jeu, il est droit. Il y a du volume de bouche, il y a de l'acidité, donc il est très complet. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce vin. J'avais goûté le 2021. Qui s'appelait Une orange à la mer, c'était un très joli nom que j'avais adoré, et j'ai regoûté le 2022, qui est donc Orangey, parce qu'il est un tout petit peu différent, et j'ai à nouveau beaucoup aimé. Donc vraiment, si jamais vous êtes dans le coin, précipitez-vous au Masfoulaquier, parce que le reste des vins en vaut la peine, évidemment. Vous verrez Blandine Chaucha et Pierre Jéquier qui vous recevront avec joie, et puis vous pourrez goûter ce vin, et puis vous pourrez voir cette appellation qui est magnifique. Donc ça c'est vraiment un coup de cœur. Et alors sur le toast d'avocat, j'en ai mangé deux des toasts. J'ai mangé tout ce qu'il y avait à m'apporter, parce que j'ai trouvé ça très bon. Mm-hmm. Et c'était en plus de ça, quand c'est avec le furikake que vous m'avez donné au piment.
Bon accent.
C'était vachement bon. Et ça allait très très bien avec ce vin. Le vin là, sur l'avocat, sur le gras de l'avocat et à la fois du foie de morue, il apporte justement cette dimension un peu végétale, c'est cette amertume qui vient trancher, qui vient apporter un contrepoint gustatif de texture. Et ça fonctionne très très bien.
Quel est le budget pour ce vin de macération en provenance du Masfoulaquier ?
c'est 16 euros, donc je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix.
Vous aviez, j'imagine, Gilles Benahouf, entendu parler de ce domaine, vous qui travaillez aussi dans la viticulture ?
Non, non, celui-ci, non, mais par contre...
C'est à côté de chez vous ?
Oui, oui, puisque je réside sur Montpellier, mais moi j'ai bien senti là, les notes poivrées qui accompagnaient très très bien le, également le petit
oyster. Ah oui, c'est un vin d'une grande complexité, c'est un des plus beaux vins de macération que j'ai goûté depuis un bon moment.
Ah oui, on est tous emballés, vous en pensez quoi ?
Ah, moi j'adore, je trouve qu'il a ses notes d'agrumes, parce que c'est vrai que l'avocat se marie particulièrement bien avec les agrumes, ce qui tombe bien, parce que c'est la saison un peu en même temps. Mm-hmm. Et c'est vrai que là, vraiment, ça amène la fraîcheur. D'ailleurs, l'association agrumes-avocat, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent aussi dans les desserts, donc je trouve que là, c'est magnifique.
Un événement à nous signaler du côté de Cahors, je crois, Jérôme Gagnès.
Oui, la Saint-Vincent à Cahors, c'est du 19 au 21. Vous aurez toutes les informations sur le site de l'émission, je ne m'appesantis pas plus, mais c'est très très beau comme vignoble. Ça a fait des progrès extraordinaires, c'est une appellation qui m'enthousiasme, que j'adore, donc vraiment, ceux qui sont à proximité ou ceux qui veulent y aller, allez-y, c'est formidable, toutes les infos, tout le programme sur la page de l'émission.
Et enfin, levons notre verre, un sacré anniversaire, ce sont les 40 ans d'une revue à laquelle nous sommes depuis tant d'années très attachés dans l'émission, une revue sur le vin, engagée, experte, indépendante, c'est-à-dire qu'elle est libre de toute publicité. Elle est publiée de façon trimestrielle depuis 1983. Ouais. Elle a accompagné, je crois, votre parcours d'amateur de vin. Moi, je la lis évidemment à tous les trimestres. Elle est dirigée actuellement par un certain Jean-Marc Gatron. On salue le rouge et le blanc. Cette revue vraiment indispensable à tous les amateurs de vin.
Ouais, c'est vraiment un amateur de vin digne de ce nom ne peut pas ne pas être abonné au rouge et le blanc. C'est de très 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 loin la meilleure revue qui soit en la matière. L'éditorial du premier numéro en 1983 disait justement « Nous sommes une revue d'amateurs au sens étymologique du terme ». Donc vraiment, il y a un amour du vin dans cette revue.
Avec le numéro passionnant.
C'est extraordinaire.
Cette semaine, il y a un papier sur la nouvelle vague en Anjou.
Exactement.
Il y a un entretien avec un certain Pifferling, évidemment, du domaine de Langlois.
Je voudrais citer deux articles. Qui incarne tout à fait ce qu'est cette revue. Il y a un article sur les coteaux du Trièves, c'est en Isère, c'est un tout petit vignoble qui est en train de naître. Seul le rouge et le blanc est là à la naissance de ce vignoble. Et souvent, ils disent, ben voilà, on se revoit dans 10 ans. Et 10 ans après, ils disent, comme on l'avait dit il y a 10 ans, on est revenu. Et les articles sont très bien faits. Il y a une petite carte, il y a des encarts. C'est remarquablement bien fait. C'est toujours extrêmement sérieux. Et puis, il y a un article sur un jeune domaine que j'aime beaucoup. Ils ont bien raison d'en parler. C'est Aurélien Chevillot à Bourgueil. Aurélien Révillot à Bourgueil. Il faut suivre Aurélien Révillot comme le lait sur le feu. Ce garçon a un talent fou. Il fait des très, très jolis vins à Bourgueil.
Vous nous les ferez goûter, j'espère.
Très certainement bientôt.
Puisque vous aimez toujours, nul n'est censé ignorer
la Loire. Comme dit la grandissime Sylvie Augereau, que nous embrassons très fort.
On embrasse Sylvie, absolument. Voilà, on ne saurait trop vous recommander de vous abonner au Rouge et le Blanc. C'est une revue sur abonnement. Et en plus, ça soutient une bande de joyauderies qui font un travail extrêmement sérieux et tout à fait indépendant de toute viticulture industrielle.
Et c'est une revue qui est sans chapelle, je le dis, c'est très important. Ils sont très objectifs.
Très bien, on se retrouve juste après. Ima Sumac, c'est une chanteuse péruvienne et elle a signé en 1956 un classique de la cuisine latina, Gopher. Thank you.
Tira bam boum, bam boum, bam boum. Parirarim, bam babam. Parirarim, dam dabam.
France Inter, on va déguster.
Le véritable nom de ce fruit est la poire d'avocat. Vous pensez peut-être que c'est un fruit difficile à se procurer. Eh bien non, depuis un an ou deux, la France d'outre-mer en produit beaucoup. Au retour du Mexique, j'ai rapporté ces imprimés qui sont en réalité la recette de la soupe d'avocat à la façon des Mexicains. Car il faut vous dire que l'avocat est effectivement un fruit d'origine mexicaine. Eh bien, je vais m'occuper de l'avocat. Je vais l'ouvrir, je vais le peler peut-être, il vaut mieux que je le pèle d'abord. Et je vais extraire le noyau, qui est un morceau de bois très dur, absolument incomestible. L'avocat, on peut très bien le manger en salade avec huile et vinaigre, ou on peut aussi le manger avec du rhum et du sucre.
Raymond Oliver qui fait l'éloge de l'avocat dans Art et Magie de la Cuisine. On est en 1958 quand même, à l'époque où on ne connaissait pas vraiment l'avocat en France. C'est à partir des années 60 en fait que l'avocat va peu à peu se démocratiser en France métropolitaine, grâce notamment à la Nouvelle Cuisine qu'il a invité dans ses créations gastronomiques. Et là tout d'un coup je vois le visage d'Elvira Masson en train de s'illuminer. Ben,
moi je me souviens de cette recette mythique des années 60-70, l'avocat crevette sauce cocktail, c'était génial, mais qui a perduré très longtemps. Moi dans les années 80, enfant, je mangeais tout le temps ça.
C'était et les Français sont particulièrement amoureux de l'avocat, ils sont les tout premiers consommateurs, mais devant très loin, très très loin. Nos amis italiens, par exemple, ne mangent jamais d'avocat. Les Français en sont particulièrement friands, hein, Gilles Benahouf.
Oui.
Donc c'est quand même
c'est parce qu'on aime trop le beurre, en fait.
Oui, c'est ça. Non, mais absolument, c'est l'alternative végétale à
et
notre fameux
aussi.
Beurre de Normandie. Beaucoup de questions sur nos réseaux sociaux et notre mail, Elvira.
Beaucoup de pratiques, notamment sur le prix de ces fameux avocats corses. Sont-ils forcément plus chers que les avocats qui viennent du Pérou, du Mexique.
Soit.
En l'occurrence, oui, ils sont certainement un peu plus chers. Mais ils sont. Comme c'est un ingrédient à mettre peut-être de manière plus ponctuelle, c'est un choix à faire.
Absolument. Moi, j'ai constaté le prix de. On est entre 6,50 et 9,90 pour des avocats en provenance de Corse ou des avocats andalous. Qui sont en général un peu moins chers, oui, car le sud de l'Espagne pratique beaucoup aussi la culture de l'avocatier, parfois au prix d'ailleurs de dépenses d'eau assez considérables, hein, Gilles Benahouf.
Oui. Les surfaces consacrées à l'avocat dans la région en Espagne est de l'ordre de 15 000 hectares, 16 000 hectares, pour une production qui avoisine les 60 000 tonnes.
Oui, c'est tout à fait considérable. Il y a beaucoup d'agriculture biologique toutefois, mais il y a quand même la question de l'eau qui est un vrai sujet. D'autres questions, Elvira ?
Il y a des questions aussi sur le côté un peu déceptif de l'avocat. C'est-à-dire qu'on achète un avocat pas mûr, dur comme une brique, et qui, quand on l'ouvre finalement, se révèle être un peu blais, noir.
Alors ça, c'est
un
problème.
On passe vite de dur à trop mûr.
Parce que non seulement on fait venir des avocats de l'autre bout du monde avec le bilan carbone de son transport, son empreinte hydrique, mais en plus, une grande partie de ces avocats finissent directement à la poubelle parce qu'on ne peut pas les manger quand on les ouvre en deux. Comment on explique ce noircissement de l'avocat ?
Alors déjà, il faut savoir que l'avocat ne mûrit pas sur l'arbre. Hein. Il mûrit qu'une fois après récolte. Hein. Donc il y a tout un travail à réaliser de maturité pour mettre sur le marché.
Un peu comme les bananes.
Un peu comme les bananes. Donc il y a des chambres de mûrissement de l'avocat. Mais le noircissement vient d'une part pour des raisons de maladies qui sont présentes dans le verger, notamment en Amérique centrale. Donc des maladies qui sont présentes. Là, les producteurs les cueillent bien avant la maturité physiologique. Et ces maladies vont se développer par la suite dans le transport. Ou une autre également, quand vous ouvrez un avocat, il va être totalement décoloré en interne sur l'ensemble de sa pulpe. Et là, c'est un avocat qui, au contraire, a été cueilli à surmaturité physiologique. Et là, il est encore plus sensible au froid, et donc le stockage au froid.
Ah.
Donc ne mettez pas vos avocats au frigo.
C'est les chocs thermiques.
Mangez de l'avocat corse, et ne le mettez surtout pas au frigo.
On le met plutôt. Transition toute faite vers une autre question, parce qu'on se demande souvent si on doit mettre l'avocat dans une corbeille de fruits.
Avec d'autres fruits qui accéléreraient son mûrissement.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on.
Jennifer.
C'est un petit tip dont on entend parler, qui est plutôt la présence, donc soit de pommes, de bananes, mais des fruits qui seraient riches en éthylène, en fait, qui dégagent dégagerait justement le gaz d'éthylène à proximité de l'avocat et qui favoriserait sa maturation.
Ça fonctionne.
Oui, ça fonctionne. Alors c'est vrai, comme disait Gilles, justement, on ne le met pas au frigo. On aurait tendance à avoir envie de le mettre dans un contenant fermé ou au frigo, mais effectivement, c'est plutôt la chaleur et la présence de ces fruits à proximité.
Et le manger rapidement.
Tout à fait.
Et ces bananes et pommes et autres fruits qui dégagent de l'éthylène, gaz qui accélère donc le mûrissement de l'avocat, ce sont des fruits nommés climactériques. Voilà, on apprend un nouveau mot aujourd'hui. On passe à la chronique d'Elvira.
On va déguster. Sur France Inter.
Le fabuleux destin d'une autrice amoureuse de cuisine mexicaine, Elvira.
C'est ça. Qui dit avocat dit Mexique, qui, je le précise, ne se situe pas en Amérique centrale, mais en Amérique du Nord.
Je fais une erreur à chaque fois. Je veux dire, Amérique latine, c'est effectivement l'Amérique du Nord pour
c'est
le
l'Amérique
Mexique.
Du Nord, comme
Désolé.
Le Canada, comme les États-Unis. Pas mal d'auditeurs râlent de votre imprécision.
Géographique.
Et qui dit cuisine mexicaine dit Diana Kennedy. Alors là, je vous sens perplexe et je vous l'accorde, c'est un petit peu expéditif. Diana Kennedy, ce nom ne vous dit a priori rien, et pour cause, c'est une sommité de l'écriture culinaire qui a consacré plus de 50 ans de sa vie à faire connaître la ou les cuisines mexicaines, et aucun de ses 9 livres n'a été traduit en français. Elle a été la première non-mexicaine, elle était britannique, à prendre la cuisine mexicaine au sérieux, et à la faire connaître, à partir de la fin des années 60, un public américain notamment, qui jusqu'alors confondait Tex-Mex et vraie cuisine mexicaine. Elle est morte à 99 ans, en 2022, après avoir sillonné chaque état du Mexique, poussée par un appétit de connaissance insatiable, un amour profond pour ce pays, compilant des recettes à partir des années 60 jusqu'à la fin de sa vie. Elle naît en 1923 en Angleterre. Ses projets d'études à l'université sont contrecarrés par la guerre. Elle sert avec les Women's Timber Corps, en quelque sorte les gardes forestiers. Après-guerre, elle fait 1000 boulots, elle travaille dans l'immobilier, puis elle immigre au Canada, elle vend de la porcelaine anglaise, elle gère une cinémathèque, et dès qu'elle a un peu de sous de côté, elle voyage, notamment dans les Caraïbes. En 1956, sur un coup de tête, elle part pour Haïti, elle y rencontre Paul Kennedy, correspondant du New York Times en Amérique centrale et au Mexique. Il se marie à Mexico, qui était le camp de base de Paul Kennedy, et là, elle tombe amoureuse du Mexique, de ses marchés, de ses couleurs, de ses piments, de sa cuisine. Elle cherche alors auprès de ses amis américains, pour la plupart, à obtenir les recettes des plats traditionnels qu'elle goûtait. Ils l'envoient parler à leur femme de chambre ou à leur cuisinière, ce qu'elle fait. Et ces femmes de chambre et autres cuisinières lui répondent « Vous devez venir visiter mon village », ce qu'elle fait. C'est ainsi qu'elle commence à parcourir le pays à la recherche de recettes. Elle a été aidée par les livres de cuisine d'une de ses prédécesseurs, Josefina Velázquez de León, l'une des premières Mexicaines à se rendre dans les campagnes pour collecter des recettes locales, que Diana Kennedy citera abondamment en la créditant dans ses livres, notamment son tout premier, The Cuisines of Mexico, publié en 1972. C'est un best-seller, 100 000 exemplaires, 200 recettes, certaines connues, d'autres méconnues, au niveau de précision géographique ahurissant pour l'époque, car pour elle, les tamales de Veracruz n'ont rien à voir avec ceux du Yucatan. Elle tâche de percer les mystères des différents mollets, de la masa, du nopal, de l'épazote, et puis il y a des textes épatants, des récits proches de l'ethnologie culinaire, des pages sur les usages et les traditions, sur les barbacoas du dimanche par exemple. Et toujours, elle cite ses sources, les noms des femmes qui lui ont confié des recettes. Elle parcourt le pays en bus ou dans son pick-up, sur les routes poussiéreuses, à la recherche de recettes obscures menacées par l'oubli. « Je veux consigner ce qui pourrait disparaître », confie-t-elle au Times en 2019. « Je traverse des montagnes, je m'assois avec des familles et j'enregistre ». Militante écologiste, elle fait construire une maison à très faible empreinte carbone qui fonctionne à l'énergie solaire dans l'état de Michoacán, où elle s'est définitivement installée, à Zitácuaro, maison qu'elle appelle modestement, parce qu'elle n'était pas étouffée par la modestie, la Quinta Diana. Au cours des dernières années, elle travaille avec la Commission nationale mexicaine pour la connaissance et l'utilisation de la biodiversité afin d'enregistrer et numériser sa collection de recettes, de dessins et de notes sur la cuisine mexicaine et sur les plantes comestibles autochtones. En 2020, elle fait l'objet d'un documentaire, Diana Kennedy, Nothing Fancy. Nothing Fancy, ça pourrait se traduire par rien de sophistiqué, que le Times qualifie de portrait vivant et non critique d'une femme aussi passionnée par le compostage que par les chilaquiles, une femme qui piquera une crise si vous mettez de l'ail dans votre guacamole.
Ah oui, il y avait eu un guacamole gate il y a quelques années parce que je crois que c'était un homme politique américain avait utilisé de l'ail et
dans son guacamole.
Dans son guacamole.
C'est un crime de lèse-majesté.
En même temps, quelle idée, quoi. L'ail n'a rien à faire dans le guacamole. À ce propos, un journaliste américain racontait son passage à la Quinta Diana pour prendre une leçon de guacamole, justement, qui commence par un verre de mescal qu'elle lui ordonne de boire. Puis c'est parti pour la recette. 5 ingrédients seulement. Je vous laisse me les citer.
Ah, 5 ingrédients pour le...
Guacamole.
L'oignon.
Citron.
Tomate.
Citron.
Alors, moi je dirais piment. Ah, là,
là. Oui, piment, oui.
Tomate.
Oui.
Avocat.
Avocat, oui.
Épices.
Coriandre. Coriandre, oui.
Coriandre fraîche, hein.
Oui. Et oignon, ça fait 5.
Ok.
C'est tout.
Ah.
Pas d'ail, donc évidemment... Pas de citron vert ou de lime du Mexique, okay. Étonnamment.
Mais sans lime, l'avocat s'oxyde.
J'y viens. Tout doit être haché d'abord, puis passé au mortier. De préférence, un molcarreté en pierre de lave volcanique. Hein. Mais bon, ça, on n'a pas forcément fait à la maison.
Selon on va y arriver sans quand même.
Toujours pas de jus de citron vert, demande le journaliste à ce stade. Réponse de Diana Kennedy. Il faut de l'acidité, bien sûr, mais elle vient de la tomate hachée. Cette acidité qui n'est pas celle du citron vert, qui viendrait écraser la saveur subtile
ça
de l'avocat.
Alors, de et on le sert minute.
On n'a pas besoin d'avoir peur qu'il s'oxyde, puisqu'on le sert minute, on n'attend pas, et on ne passe jamais la préparation au mixeur, parce qu'on n'est pas des bébés. Là, c'est pas moi qui parle, c'est Diana Kennedy que j'aurais adoré rencontrer.
Très bien. Alain de Bresse nous dit deux choses. Gilles Benaouf, il évoque ces gros avocats que l'on nomme sur nos étals métropolitains, les avocats tropicaux. C'est vraiment des ballons de rugby. Ça, c'est une variété qui ne pousse pour le coup que en milieu tropical ou subtropical.
Oui, elle ne serait pas adaptée du tout à la région française.
Et moi, j'en consomme personnellement aux Antilles françaises. Et quel régal, ces gros fruits, ces gros avocats qu'on peut trouver dans certains magasins exotiques.
Le poids d'un avocat peut aller de 50 grammes à 1 kilo.
Incroyable. Et cet Alain de Brest vous demande de bien nous confirmer que l'avocat est effectivement un fruit botaniquement.
Oui, c'est un fruit. C'est même une baie.
Et pourquoi ?
Ça, c'est les caractéristiques physiologiques de la famille des Doracées.
Issu de la fécondation d'une fleur, en fait,
oui,
c'est pour ça. Hein.
Tout à fait.
Et ce fruit peut se prêter au dessert, Jennifer Smith.
C'est magnifique. Bah, en l'occurrence, puisqu'on adore le beurre en France, ce qui est génial avec l'avocat, et c'est aussi la raison de son succès, notamment dans tout ce qui va être un peu plus les régimes vegan ou sans lactose, c'est que l'avocat a vraiment les caractéristiques de pouvoir, à certains endroits, remplacer le beurre. Donc là, ce que je vous ai proposé, c'est un cheesecake cru qui n'a pas de cuisson.
Oh, le pied.
Voilà. Donc en fait, c'est vrai que... L'avocat, comme toute matière grasse, a tendance à chélater un petit peu les arômes, les huiles essentielles. Et c'est pour ça que je disais qu'il se marie bien avec le citron vert. Alors, surtout pas dans le guacamole, visiblement. Mais en l'occurrence, là, dans ce cheesecake,
c'est magique.
C'est pas mal. Parce qu'en plus, le fait de mettre beaucoup d'arômes florales ou des huiles essentielles, des agrumes, ça permet de mettre moins de sucre. Là, il y a une très petite présence en sucre. On est sur une petite lichette de sirop d'érable ou de miel. Et il y a une base faite à base de noix de pécan, de gruyère de cacao et un petit peu de pâte de date. Juste ça.
Quel
et donc,
régal.
Il est cru. Qu'est-ce et après, bon, la texture, voilà, elle est assez crémeuse parce que, justement, sa matière permet, juste en le mixant, de garder ce crémeux. Et au froid, on met un tout petit peu soit d'huile de coco ou de beurre, selon ses sensibilités. Et ça permet de redurcir, de redonner un petit peu de matière. Donc, voilà.
Cette recette cloue le bec de Jérôme Gagnès, qui est une prouesse quand même.
Ah là, je dois reconnaître que je suis totalement bluffé.
Il est cueilli.
J'y croyais pas une seule seconde
le papier,
à cette
affaire. C'est pas une recette en Jérôme, ça.
Oh la vache.
Bon, ça me fait plaisir parce qu'effectivement.
Alors là, le soyeu de cette préparation.
Ah, j'ai pris un coup derrière la tête, j'ai rien vu venir.
L'équilibre entre le peu de sucre et cette formidable acidité, la suavité, le côté soyeux de cet avocat, c'est incroyable.
C'est très équilibré, absolument pas écœurant. Puis cette pâte qui a ce goût comme ça, un petit peu torréfié.
Oui, ça se marie très très bien avec tout ce qui va être un petit peu les amandes grillées, les noix de pécan grillées, ce côté un peu grillé, au même titre que l'avocat se marie très bien avec
On
mixe un avocat, on a un tout petit peu d'adjonction de citron, ou de citron vert, c'est pareil, mais le citron c'est plus local, enfin c'est plus mieux sourcé. Et ensuite, on a aussi un petit peu de base de fromage blanc, qui va donner quand même ce côté un petit peu onctueux aussi.
Quel régal.
C'est vraiment un cheesecake. Voilà, là je l'ai proposé en version individuelle pour le côté pratique de la découpe, mais effectivement...
C'était un peu petit d'ailleurs.
Il y a plus d'un auditeur et d'une auditrice qui vont se lancer dans cette formidable recette, présentée dans un petit bol, avec une délicate couleur vert pastel. C'est un vrai, vrai régal. Elvira ?
Une carte postale du bout du monde, envoyée par Adrien qui nous écrit « En Indonésie, et plus spécifiquement à Sumatra, d'où je vous écoute assidûment le dimanche après-midi. Les avocats sont disponibles à profusion. Il suffit de tendre la main ou de se pencher dans la campagne pour en trouver. Surtout en février, ils sont charnus, gras, parfumés, très fondants et se dégustent comme fruits nature ou en dessert. Mais ce que je préfère quand il fait une chaleur torride, c'est le S. alpukat, une sorte de soupe glacée au lait de coco, lait concentré, chair de jeune coco, graines de basilic, le tout parfumé au pandan et garni de gros morceaux d'avocat bien mûr. Un délice.
Et ben c'est sûr. Sur cette très jolie carte postale comestible que nous sommes obligés de se quitter, chers amis. Merci Gilles Benaouf d'avoir éclairé de vos lumières notre émission sur l'avocat. Merci Jennifer Hartsmith. Je rappelle le manuel gourmand de la ménopause, indispensable. C'est un super bouquin qui marche bien d'ailleurs, Chalma Michel, coécrit avec
Elvira. Au seuil.
Pardon, au seuil, mais oui, au seuil. J'ai dit Alma Michel tout à l'heure, pardonnez-moi. Au seuil, évidemment. Je voudrais vous recommander chaudement, alors qu'il fait froid, Ça va mijoter, notre série d'émissions entièrement consacrée aux plats mijotés, choux farcis, pot-au-feu et autres cassoulets à retrouver sur l'appli Radio France et le site de France Inter. On vous a mis le lien sur notre site. Et la semaine prochaine, macro, taco, chinchard, congre, plein feu sur les poissons durables et bon marché. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.